Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un bouquin qui devrait sortir en mai 2020, sur lequel j'écris depuis 2 ans maintenant. Et je peux. Je crois que c'est la première fois que j'en parle.
Voilà.
Au public, Voilà, ce sera un bouquin qui va parler de la notion. Qui va pas parler juste d'astrophysique. Ça va parler d'astrophysique, mais l'idée c'est de parler de la notion d'identité personnelle à la lumière de plein de sciences différentes.
Donc, tu m'as fait peur.
Qu'est-ce que nous disent les sciences sur qui est-ce qu'on est et d'où est-ce qu'on vient?
La notion d'identité est obsolète.
Tu reviendras faire ta promo. Exactement. L'idée c'est de dire que la notion d'identité elle est un peu floue. Et on va parler de c'est quoi un corps en termes d'astrophysique.
Est-ce que c'est un livre qui se lit en diagonale?
Tu reviendras faire ta promo. Oui, je reviendrai faire la promo.
Bonsoir.
Salut.
Regardez Sébastien, Sébastien est vraiment avec nous.
Oui. Oui, et je suis clairement beaucoup plus petit que la plupart d'entre vous.
Voilà. Voilà.
Faire des complexes.
Ça rappelle The Big Bang Theory. Ah, un peu.
Carrément.
Un peu,
Carrément.
Mais qui joue Sheldon?
Toi, visiblement. Désolé, mais.
Ok, donc il y a ma place. Okay.
C'est qu'il nous avait teasé pour la toute première fois son livre en 2019 chez nous. Et tu as dit que tu reviendrais faire ta promo, et il est revenu pour faire la promo de ce petit truc-là, voilà.
Wow.
De ce tout petit truc-là, donc voilà. Ce soir, c'est Phallus Live de Noël, j'espère que vous avez vu un peu la thématique de Noël. Et on va parler du livre de notre cher Sébastien, et pour ça, je suis accompagné de Castor.
Bonsoir.
Voilà, qui revient. Bonsoir, Castor. Comment ça va?
Ça va très bien. Je risque de disparaître en cours de live parce que la vie, mais je suis ravie d'être là.
Tu as décoré notre cher Seb.
Oui, je l'ai mis un magnifique chapeau. Si vous voyez derrière, c'est un bordel de scotch, mais c'est pas grave, ça valait le coup.
Je suis aussi avec Brusicor qui est tout là-bas. Voilà. Mon cher Brusicor qui va faire une expérience en live après. Voilà, toute petite expérience. Ça va être fort sympathique. Est-ce que tu nous dis ce que tu vas faire?
Je vais essayer de rien faire exploser.
Très bien.
Merci.
C'est mieux
merci.
Parce qu'on est dans un endroit fermé, donc j'aimerais bien.
On va essayer de faire un peu Noël, donc on va rester
d'accord.
Avec un objet de Noël et on va essayer de faire un lien avec l'invité. Est-ce qu'on va y arriver en quelques briques? On va voir.
Je pense que ce sera à Sébastien de juger, évidemment. Évidemment. Et je suis aussi en compagnie de Sabine. Sabine, ouh, qui était là, qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps, mais Sabine qui est là. Comment ça va?
Bah bien, bien bien, j'ai bien mangé, j'ai eu un bon chocolat chaud, bah je suis bien.
Ouais, petit chocolat chaud qui est dans le thermos, hein, petite pumpkin pie. On a fait vraiment un petit goûter entre nous avant, juste pour nous.
C'était bien.
C'était merveilleux.
C'était fort bien. Donc voilà, ce soir nous allons parler de Sébastien, évidemment. Nous allons parler de Sébastien et de son nouveau livre qui est sorti le 10 novembre. Il y a pas si longtemps.
Ah, j'avais pas vu que l'icône des follow, c'est moi.
tu es El Comandante, hein, après tout. Je t'ai donné une barbe, je la montre.
Non, mais c'est bien, ça fait vraiment le live du culte de la personnalité, j'adore.
C'est parfait.
Ah bah, vous ne connaissez pas, mais Conscience est très fort en culte de la personnalité. Hein. J'ai beau être le président, Sébastien reste à jamais dans les cœurs. Voilà,
merveilleux.
Évidemment, nous ne disons pas tout ce qui se passe en privé.
Oh, clignons des yeux. Est-ce qu'on va mal?
Nous torturons des gens comme Castor avec des chants de Noël.
Comme dans
toute dictature.
Noël, mais alors, les musiques de Noël, c'est une torture.
Bon, comment ça va, Sébastien? On va commencer à discuter de toi, à parler de toi, non?
Eh ben, écoute, moi, ça va très bien. Il se trouve que je suis tiré contact, donc c'est pour ça que je ne suis pas avec vous ce soir. Mais je suis quand même ravi d'être là, à distance, avec les bons gestes barrières et tout. Mais tout va bien pour moi, hein, rassurez-vous. Non, je suis très content d'être là et je suis content d'être de retour pour accomplir la prophétie.
Bon, on parlera de ton livre dans une deuxième partie, mais est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit bilan de ton activité de vulgarisateur? Parce que il s'en passe des choses, tu t'es lancé, depuis que tu es à plein temps, il s'en passe des choses, non?
Oui, il s'en passe des choses, alors c'est difficile, là tu vas me demander un boulot d'introspection,
Oui. Non, mais on va y aller tranquillement. Déjà, j'aimerais bien, je l'ai loupé, j'étais dingue, mais je veux bien que tu nous parles du live qui s'est passé vendredi.
Ah, mais c'était incroyable ça. J'ai fait un live avec Thomas Pesquet sur le TikTok du journal Le Monde. Et voilà, on a parlé de l'adaptation du corps humain dans l'espace. Il y avait 37 000 personnes, c'était
énorme.
Très impressionnant.
Trop bien.
Mais c'était dans une tellement bonne ambiance que voilà, c'était assez, assez remarquable.
Et comment ça s'est passé? Enfin, en gros, c'est Le Monde qui t'a contacté. Comment ça s'est passé le truc?
Le monde m'a contacté genre 2 jours à l'avance en me disant parfait. Ça te dit de faire un live sur TikTok dans 2 jours avec Thomas Pesquet. Je
fais, bah oui.
Ok.
La base.
et donc voilà, c'était un très très beau moment.
T'avais déjà eu l'occasion de discuter avec lui ou c'était la première fois que t'échangeais avec lui?
Je pense que c'est pas la première fois qu'on se voit parce qu'on a tourné. Il y a Étienne qui a tourné une interview de lui il y a quelques années qui n'est pas encore sortie sur la chaîne, qui sortira peut-être un jour, on sait pas. Et en fait, il a été jury d'un concours de vidéos au CNES en 2017 qu'on a eu la chance de gagner. Et donc voilà, donc il a vu, il connaît notre chaîne.
D'accord,
nice. Mais c'était la première fois que je lui parlais en vrai.
Donc, c'est ton premier astronaute que tu interviews ou tu en as eu d'autres?
Non, j'ai eu la chance d'intervenir avec plein d'astronautes dans ma carrière de vulgarisateur. J'ai rencontré Philippe Perrin, le premier français à avoir fait une sortie extravéhiculaire dans l'ISS. J'ai rencontré Michel Tonini, j'ai rencontré Jean-François Clairvoy. Donc j'ai rencontré quelques astronautes, c'était fort cool.
Tu en as d'autres d'ailleurs que tu aimerais rencontrer?
Que j'aimerais rencontrer, j'aimerais bien rencontrer Chris Hadfield. Il a l'air vachement sympa. Et puis il a un accent rigolo quand il parle français. Enfin, pour préparer le live sur TikTok, j'ai regardé plein de vidéos de Chris Hadfield qui essaie de raconter comment on fait des tortillas dans l'espace avec un accent canadien-français.
Parfait.
Trop bien.
C'est assez magique. Donc je vous recommande d'aller voir ça si vous avez l'occasion sur YouTube. Il y a ça et puis il y a Samantha Cristoforetti qui explique comment fonctionnent les toilettes de l'espace et c'est assez fantastique, voilà.
Et alors finalement TikTok, tu as fait des TikTok aussi?
J'ai fait des TikTok, alors ça c'est vraiment les conséquences du confinement.
Comme beaucoup,
le
hein.
Confinement rend accro à TikTok.
Les séquelles psychologiques du confinement, ça fait faire des TikTok. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Manon Bril qui avait commencé à faire des TikTok. Ça a complètement explosé. Et elle a lancé un truc, en fait, hein, une espèce de mouvement de vidéastes qui faisait de la vulgarisation sur TikTok. Et c'est à ce moment-là que je découvrais un petit peu cette plateforme. Et depuis, j'en suis un petit peu addict. Hein, je suis dessus à peu près tous les jours. Produire des vidéos dessus, j'ai clairement pas le bon matériel pour le faire. J'ai fait 4 vidéos pour l'instant avec un téléphone d'une qualité patate. Tant que j'ai pas un meilleur téléphone, je ferai pas d'autres TikTok. Et puis c'est difficile, ça demande de faire du contenu sur de l'instantané et de se prendre du temps pour faire ça, d'avoir une régularité. Et les gens qui me connaissent savent que la régularité, moi, ça fait 3.
Ouais. Bienvenue. Mais c'est vrai que c'est plus technique qu'on l'imagine de faire des TikTok.
Ça a l'air vachement technique.
Ouais.
Et le public, tu le sens, est-ce que déjà tu sens que tu as différents types de publics par rapport à ton TikTok et aussi le public que tu as eu avec cette interview avec Thomas Pesquet? Enfin, en gros, comment tu as ressenti ça? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu étonné, des questions intrigantes ou enfin voilà, ton ressenti du public TikTok?
Bah, le public TikTok, c'est difficile de faire des généralités parce que là, c'était un live très rapide d'une heure. Enfin, une heure, quand t'as 37 000 personnes, c'est difficile de faire des généralités sur le public. Mais sur TikTok, le public est relativement jeune en général. Sur le live avec Thomas Pesquet, ils étaient plutôt autour de 17 à 22 ans, quelque chose comme ça, avec des gens qui sont plus jeunes et des gens qui sont plus vieux, évidemment. Mais on est resté. En fait, les questions étaient sélectionnées par une équipe du journal Le Monde. Du coup, c'était... Il prenait forcément les plus pertinentes. Mmh. Et de toute façon, moi, j'essayais de voir le truc défiler, mais ça défilait à la vitesse de la lumière.
À 37 000 personnes, bon courage.
J'ai jamais vu ça. Hein. C'était assez fou. Mais ouais, il y a plein de médias qui se sont mis à TikTok et qui essaient de produire des contenus pour des publics vraiment plus jeunes, avec les codes des gens plus jeunes. Moi, j'ai l'habitude de m'adresser à des gens qui ont entre 18 et 35 ans, en général. Même si je m'adresse aussi à des plus jeunes, mais disons que ma zone de confort, elle est là. C'est ça que j'aime bien avec TikTok, c'est que ça t'oblige à sortir de cette zone de confort là et de pas avoir l'air d'un boomer en permanence.
Ça me fait rire d'ailleurs parce que par rapport, c'est vrai que sur TikTok c'est très c'est très très jeune et je suis tombée sur le TikTok d'une jeune fille qui racontait une histoire etc et qui parlait d'une personne qu'elle qualifiait de mama et à la fin elle dit ouais c'est une mama, elle a 30 ans et tu fais encore ça.
Aïe.
Ça m'a fait si mal, j'ai fermé l'appli, j'ai pleuré après.
Tu t'es mise en PLS, au secours.
PLS.
Je suis pas vieille. Je suis pas vieille.
Ne respectent plus leurs aînés.
Oh, hein. C'est terrible. C'est terrible.
Désolé d'avoir été né avant 2000. Désolé d'avoir
oui,
été
ça
là avant.
Ben oui, ça existe. Non, c'est terrible. Ça m'a fait mal.
Ah. Depuis que tu es, depuis qu'on, que tu es venu à un Céphalusaf, t'as quand même pas mal diversifié tes activités, hein. Parce que tes activités principales, c'était quand même la chaîne YouTube il y a 2 ans à peu près.
C'est vrai, mais après, j'arrive pas à me tenir sur un seul truc, en fait. Ce que j'aime bien avec la vulgarisation, c'est que ça me permet d'explorer de sortir de ma zone de confort. Quoi. J'aime bien le malaise. Je sais pas si j'ai des malaises.
J'aime aller mal.
Et du coup, ouais, la vulgarisation, ça me permet d'être en situation de malaise régulièrement et de toujours essayer de se dépasser, d'updater ses compétences et d'apprendre des nouveaux codes aussi, parce que ça, c'est beaucoup de ça, de consommer pas mal de contenus très différents. Je sais pas, j'ai fait un peu de radio, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait un peu de... Là, je suis sur un podcast en ce moment qui devrait sortir l'année prochaine et qui va s'appeler Vers l'infini. Si ça se passe bien, ça va sortir sur Deezer. Et voilà, donc j'explore des nouveaux territoires et des nouveaux publics aussi. Et c'est ça qui me passionne, quoi, de raconter des histoires sur tous les médias possibles. En fait, c'est ça mon but dans la vie, c'est de raconter des histoires sur toutes les plateformes qui existent.
Il est partout,
c'est ça.
Ouais, d'être partout.
Je ne ferai pas la blague que je fais d'habitude. Mais ce qui fait que est-ce que maintenant tu as des, tu vois, par rapport à YouTube, tu as des préférences par rapport à d'autres médias
Écoute, ma préférence, elle va toujours vers l'écrit, en fait, parce que je suis toujours plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, en général, parce que ça me permet de plus réfléchir à ce que je vais dire avant de le dire. Et en général, le format que j'aime le moins, c'est l'interview en direct, parce que ça te met une pression de malade.
Ah voilà.
C'est bien.
Oh là là, ça va, là, on est entre nous, je peux dire des conneries, il n'y a pas de souci.
On est en famille.
Mais voilà, quand t'es sur un live du monde et que tu sais que 37 000 personnes te regardent en train de te gratter le nez si ça arrive, ou de raconter une connerie, voilà, après c'est à toi de t'auto-débunker plus tard, quoi, si tu vois que t'as dit des conneries. Donc ça donne une responsabilité quand même assez forte. Et du coup, ouais, moi ce que je préfère, c'est d'écrire, parce que au moins quand j'écris, je peux sourcer tout ce que je dis et je peux me déresponsabiliser très facilement.
Ah, c'est sûr que si on regarde la partie bibliographie de ton bouquin, attention, voilà. ça fait quand même une bonne partie du livre. Hein.
En fait, il n'y a que ça.
Mais j'allais dire.
Pas de livre.
Mais ça veut dire que c'est un bon livre scientifique. C'est-à-dire que sur ça, quand même, il y a tout. On ne voit pas très bien parce que c'est blanc, etc.
C'est une vingtaine de pages, je crois.
Mais c'est une vingtaine de pages. Mais ça veut dire que si on cherche des références, on veut explorer plus, il y a quand même pas mal de choses. Et ça, c'est
plus. Ça fait 7% du livre.
Ça fait 7%
de la bibliographie. Merci. Et le poids, je connais le poids, moi.
Et que 2 pages de remerciements, quelle honte.
Oh là là.
Non, quand même, 2 pages de remerciements, c'est énorme, j'ai l'impression.
Oui, enfin, 2 pages, ça se voit. 2 pages recto verso.
Oui, 2 pages recto verso, pardon. Mais bref, donc ce qui fait que tu sors un livre.
C'est plus qu'un livre pour moi, c'est vraiment un projet de vie. C'est quelque chose qui m'a pris vraiment 4 ans de ma vie, presque à temps plein. Je suis très content qu'il soit derrière moi, tout simplement. Qu'est-ce que dire? C'est un bouquin qui parle de questions existentielles. Des questions existentielles qu'on se pose toutes et toutes depuis qu'on est tout petit, des questions du style sommes-nous seuls dans l'univers, c'est quoi notre place dans le cosmos, de quoi sommes-nous faits, est-ce que le monde a une origine, ce genre de trucs. Et l'idée derrière ce livre, c'est de faire de prendre, enfin, chaque chapitre c'est une question, et l'idée c'est d'avoir une espèce d'état des lieux des connaissances scientifiques au 21e siècle sur ces questions, et de se demander dans quelle mesure la science peut répondre aux questions existentielles. Et la réponse à toutes ces questions, c'est dans une certaine mesure, on commence à avoir des outils pour y répondre de manière fiable, mais dans d'autres, on est quand même loin d'avoir répondu à ces questions existentielles. Par contre, ça peut nous donner un espèce de vous êtes ici cosmique, en disant, voilà, on se replace dans un contexte plus large, spatio-temporel, et on peut voyager à travers des échelles au-delà des limitations de nos sens. Et moi, c'est ça qui me plaît avec la science, en fait. C'est le fait de pouvoir dépasser les limites de ses sens et de pouvoir se munir de ces espèces de prothèses électromécaniques que sont nos microscopes, nos télescopes, nos accélérateurs de particules, pour dévoiler l'invisible et de se dire qu'il y a une réalité bien plus riche et bien plus vaste au-delà de nos petites individualités. Voilà.
Et tu dis que ça t'a pris 4 ans. Est-ce que ça a été un peu long parce que tu as senti que tu avais besoin, enfin c'était l'écriture qui a été longue, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés aussi d'un point de vue éditorial de trouver l'éditeur, etc. Enfin, qu'est-ce qui... Parce que, enfin, 4 ans, enfin, j'ai l'impression qu'en général, tu peux publier un bouquin en 1 ou 2 ans. Et du coup, voilà, 4 ans, qu'est-ce qui... comment ça s'explique, du coup?
La difficulté, elle n'a pas du tout été éditoriale, parce que c'est des éditeurs qui sont venus me chercher.
La classe.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017 ou 2018, j'ai été contacté par le journal Le Monde pour faire un portrait de moi, parce qu'il se trouve que j'ai un rapport un peu intéressant avec la science, donc comment est-ce que je suis arrivé à la science, je suis passé par le complotisme, etc. Et c'est un truc qui a fait un peu le buzz. Et du coup, à partir du moment où cet article a été publié, j'ai été contacté par 5 ou 6 éditeurs différents qui voulaient que je publie un bouquin chez eux, tout simplement. Du coup, voilà, je me suis retrouvé dans une position où j'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais là je me suis dit, je viens de finir ma thèse, j'ai envie de prendre du recul sur ce que j'ai appris jusqu'à présent, et...
Donc repartons, et voilà, pour 4 ans et faisons une autre thèse, mais en livre.
En plus difficile, parce que là, je me suis pas limité à un domaine en particulier. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est que je traite de plein de domaines, je traite de biologie, d'anthropologie, d'histoire des sciences, etc. Et c'est des domaines sur lesquels, il y a 4 ans, j'étais pas du tout formé. Donc il a fallu prendre du temps pour prendre des cours de tout ça, pour trouver des chercheurs et des chercheuses pour me relire, pour lire des articles scientifiques dans les domaines et voir comment est-ce que notre approche de ces questions-là a changé au fil du temps. Et tout ça, en fait, ça demande de potasser des centaines et des milliers d'articles, de bouquins, et de faire décanter ça, en fait. Et le fait juste de décanter ces idées, ça m'a pris 4 ans.
Une thèse, quoi. Effectivement. Effectivement, une thèse. Une thèse. Et le sujet, c'est toi qui l'as choisi, du coup ?
En bibliographie, quoi. J'ai pas fait de travail de recherche, j'ai juste fait un travail de synthèse. En général, dans une thèse, ça correspond au premier chapitre. Tu sais, c'est le chapitre où on remet en contexte la question.
Donc,
de recherche.
Des questions, ouais.
Ah bah bravo, un premier chapitre de thèse en 4 ans, franchement.
C'est honteux, monsieur.
C'est un premier chapitre de 284 pages, donc ça, c'est un bon premier chapitre.
Et le sujet, c'est toi qui l'as choisi, le sujet, ou on te l'a plus ou moins suggéré
En fait, le sujet, il a beaucoup changé au fil des années. En fait, mon but, c'était vraiment de trouver un moyen de faire des connexions entre plein de domaines scientifiques et de plein de questions qui me portaient au fil du temps. À la base, j'étais très séduit par une approche qui s'appelle la Big History. C'est une espèce de domaine interdisciplinaire qui... essentiellement anglo-saxon, qui existe depuis les années 80 et qui cherche à raconter l'histoire de l'humanité dans son contexte cosmique à partir des sciences contemporaines. Et voilà, c'est des gens qui font des colloques régulièrement et qui invitent des astronomes, des géologues, des gens qui font des sciences sociales, des anthropologues, des historiens. Et ils essaient de confronter leur point de vue pour essayer de trouver une manière rigoureuse, entre guillemets, de raconter l'histoire de l'humanité aux plus grandes échelles imaginables. Et je suis tombé à fond là-dedans pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai pris du recul là-dessus, une espèce de recul critique, parce qu'il y a quand même des bases idéologiques assez fortes qui je trouve de moins en moins justifiées, donc je m'en suis écarté. Et du coup, entre le moment où je suis tombé là-dedans, que j'ai fait des recherches pour mon bouquin, que j'ai complètement changé ma manière de voir le monde et que j'ai essayé de refaire un bouquin à partir de ce nouveau truc-là, l'angle a quand même pas mal changé. Donc, dans les derniers mois, je suis tombé sur cet angle qui était les questions existentielles, parce que c'était vraiment le fil directeur qui liait tous les chapitres. Mais disons que c'est un peu décousu, parce que ça reflète un petit peu mon parcours intellectuel sur ces dernières années, quoi.
Mais ce qui fait que quand même j'ai l'impression que tu t'es ouvert quand même à énormément de disciplines, parce que c'est vraiment ça sort pas mal de l'astrophysique. Il y a quand même on fait quand même une épopée parfois, enfin il y a vraiment une condition d'échelle où tu plonges dans un corps humain, titre, mm-hmm. évidemment.
La base.
Voilà, enfin, y a vraiment une notion d'échelle, on part du plus grand au plus petit.
Plonger dans un corps humain, ça m'a fait me poser des questions que je n'imaginais pas me poser avant. voilà, et notamment des questions de consentement.
Est-ce que...
C'est assez ouf.
Comment il s'appelle? Est-ce qu'il avait donné son consentement, le monsieur?
Pardon?
Est-ce qu'il avait donné son consentement, le monsieur, là, que t'as mis dans le livre?
Au début, je m'étais même pas posé cette question. Je me suis dit, j'ai mis mon lecteur ou ma lectrice dans la peau de Ant-Man et je me suis demandé à quoi ressemblerait un vrai voyage dans un corps humain de Ant-Man. Et donc, à la base,
Monsieur Tompkins.
Voilà. Je suis tombé sur finalement un Monsieur Tompkins qui est une grosse référence à des livres de vulga des années 30. Et donc, Monsieur Tompkins, c'est ce vieux monsieur employé de banque qui, au final, est devenu l'ami proche du lecteur ou de la lectrice. Mais à la base, c'était un passant ou une passante qui passait par là dans un parc. Et on lui sautait dessus, sans qu'elle s'en rende compte ou sans qu'il se rende compte. Et on rentrait dans son corps. Et je me suis dit, attends.
Ah bah bravo!
Attends une minute. C'est quand même vachement cringe ce que je viens d'écrire.
C'est un truc qu'on voyait déjà dans le bus magique.
Mais en fait, j'avais l'image en tête du bus magique, mais le bus magique ne se préoccupait pas de ces questions-là.
Absolument pas.
Bon, ça prend du temps, faut aller vite là. Quelle idée de demander le consentement des gens, après tout.
Non, il se passe des choses vachement cheloues dans certains épisodes du bus magique. Mais avec le recul.
Oui. Oui.
Voilà. Je garderai toujours un moment, enfin voilà, une scène inoubliable où ils se font spermer dessus par un saumon.
Oh, je m'en rappelle pas de ça.
On regardait pas les mêmes épisodes, je crois. Hein.
Ouais.
Ok.
T'es sûr que c'est la version tout public que tu regardais là?
Non, c'était le pré-plus magique.
Il y a un épisode qui est armé. Le mec qui est vachement chiant là, il se suicide sur plus.
Ah oui, ça j'en souviens. Mais l'épisode
alors,
du
comme
saumon,
c'est un truc pour enfants,
très bien.
Foot, du coup, il survit, ils le mettent dans le bus, ça va bien. Mais normalement, il devrait mourir, quoi.
Donc voilà, donc le consentement, c'est important, hein, voilà.
Tout à fait.
Mais oui, quand même, tu as dû. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de te renseigner sur d'autres disciplines qui sortaient un peu de ton domaine habituel? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu? Enfin, comment ça s'est passé, le fait de s'ouvrir à d'autres disciplines?
Ça a été très libérateur pour moi, parce qu'il se trouve que, comme j'explique au tout début du bouquin, j'ai jamais eu un profil de spécialiste, en fait. J'ai toujours eu du mal à rester sur une même question pendant plusieurs années, et ça m'avait posé pas mal de problèmes pendant ma thèse. Mes directeurs, ils en avaient un petit peu marre que je divulgue mon attention sur plein de choses. Mais il se trouve que, voilà, ça fait partie de ma personnalité, et j'ai un peu une curiosité un peu dévorante, donc quand je m'intéresse à un truc, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si je peux remettre ça dans un contexte plus large, et d'article en article, ça me fait m'intéresser à plein de sujets très différents, et c'est un peu un jeu sans fin, en fait. L'une des difficultés, ça a été d'arrêter ce bouquin et de pas ajouter d'autres chapitres sur des trucs complètement hors de mon champ d'expertise, genre les neurosciences ou la philosophie de l'esprit. Et donc voilà, ça a été difficile de trouver cette humilité a posteriori.
Donc ça sous-entendrait qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dans le livre, mais que tu as déjà écrit, parce que tu as dû faire cet écopage pour le livre.
Ah, mais le livre qu'il y a là, c'est un cinquième de ce que j'ai écrit, je pense.
Le malin, il va vendre les 5 volumes. Oh, le petit malin, une autre annonce, le volume 2 va paraître prochainement.
Après tout, le Cosmos originaire est en 5 volumes, non?
Absolument, 5 volumes de près de 600 à 1000 pages chacun. Donc, voilà, le Cosmos originel de Alexander von Humboldt, donc l'explorateur allemand du 19e siècle. Mais ouais, qui a un petit peu inspiré l'approche du livre, on va dire. Mais ouais, ça a été assez libérateur pour moi de m'intéresser à tous ces trucs-là sans des contraintes académiques de tu dois publier des articles, tu dois rédiger une thèse, tu dois faire des trucs voilà, sur une question avec une approche. Puis ça correspond à une espèce d'envie que j'avais depuis tout petit de faire des liens entre plein de connaissances différentes. Après, ça a été assez terrifiant, en fait, de sortir à ce point de sa zone de confort. Et au tout début, j'étais vraiment en mode « bon, bah, ça va être facile, entre guillemets, je vais prendre des livres de vulgarisation et ensuite je vais voir les références des livres de vulgarisation et puis je vais faire de plus en plus complexe comme ça ». Et en fait, c'est difficile quand on a des préjugés sur certains concepts, sur certaines notions, de sortir de ces préjugés-là. Ça demande vraiment une espèce de recul qui vient avec l'expertise. Et ça, je l'ai appris un petit peu à la dure, on va dire. Voilà, notamment sur ce côté de Big History-là, je me rappelle avoir été... probablement ma pire expérience du monde académique. J'avais décidé de présenter la Big History dans un colloque interdisciplinaire en exobiologie. Et j'avais pas du tout eu le temps de préparer ça, c'était un truc de 10 minutes. Mais j'y suis allé vraiment en mode zélote, je veux dire. Bon, on a besoin de la Big History, ça n'existe pas en France, je vais être monsieur Big History. Et voilà les postulats... théorique de ces trucs-là, ça a l'air super intéressant, pourquoi personne n'en parle, etc. Et j'ai fait ce talk devant des chercheurs expérimentés de plein de domaines, et je me suis fait défoncer comme jamais. Et ça a été assez difficile sur le moment, mais par contre, ça a été salvateur pour moi. Tout ce qu'on prend était là, donc il sait de quoi je parle.
Mais il te reprochait quoi, en gros ?
En fait, il me reprochait d'avoir une vision qu'on appelle scaliste de la biologie. En fait, il y a une espèce d'échafaudage théorique de la Big History qui veut que... on est passé à plusieurs échelles de complexité au fil de l'histoire de l'univers, avec une définition théorique de la complexité qui n'est pas du tout consensuelle, même si voilà, c'est une notion qui est très, très discutée. Mais voilà, en fait, Le problème que j'avais, c'est que j'avais zéro recul sur ces questions-là, quand j'en ai parlé. Et forcément, je me suis fait défoncer, mais en tout bien, tout honneur, j'ai envie de dire.
Cela ne nous regarde pas.
Avec consentement.
Il y a Robin dans le chat qui dit qu'il était là, qu'il s'en souvient, qu'il était là.
Exactement. Mais du coup, en fait, ça a été une révélation pour moi, parce que ça m'a fait prendre du recul sur plein de choses que sur lesquelles je n'avais pas de recul. Et ça m'a donné la claque dont j'avais besoin. Et à partir de là, j'ai repris les bases. Je me suis dit, bon, sur quoi on m'a défoncé ? Pourquoi est-ce que ça pose problème ? J'avais besoin clairement de remettre mes connaissances de biologie dans un contexte historique pour sortir des préjugés que j'avais sur la question. Et du coup, voilà, j'ai gagné en humilité, ou j'ai perdu en hubris, plus précisément. et j'avais besoin de ça.
Parfois, avoir des remarques et des retours sur son travail, ça aide quand même un peu à grandir.
Oui, mais complètement.
Après, si on peut éviter les claques dans la gueule, ça
peut... Ouais, mais alors, ça veut dire qu'il ne faut pas discuter avec des chercheurs.
Si ce n'était pas une claque, je pense que je ne me serais pas remis en question à ce point. Ouais. Donc là, la violence du truc a été salvatrice pour moi, dans mon cas.
Une bonne claque, là, ça fait du bien.
Ouais, elle m'a fait du bien, cette claque. Donc, merci à la personne, ou aux personnes qui m'ont filé. J'en ai besoin.
Mais alors, finalement, il y a quand même beaucoup de science dedans, mais il y a aussi beaucoup de culture. Moi, j'ai été étonné dans le livre de voir qu'il y a beaucoup de remises en contexte, et souvent, justement, les sujets sont remis en contexte par rapport aux croyances de l'époque, etc. Ouais. Donc, ça parle aussi de différentes cultures, de différentes, par exemple, comment on pensait que l'univers était créé dans certaines religions et tout. C'était important pour toi d'intégrer ce genre de remise en contexte, parce que c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans des livres de médiation, de remettre en contexte à ce point sur le côté croyances religieuses, culturelles, etc.
C'est très difficile, en plus.
C'est assez difficile, mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment fondamental, parce qu'on a tendance à croire que la science, c'est quelque chose qui est dans un monde des idées idéales et qui évolue graduellement vers une description de plus en plus fidèle du monde de manière purement rationnelle et avec des gens qui sont uniquement des gros cerveaux. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Il y a plein de facteurs historiques, culturels, idéologiques qui rentrent en jeu. Mmh. Et pour moi, c'était important de remettre ça, de remettre la manière dont on pose ces questions-là aujourd'hui dans son contexte culturel, parce que les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles viennent pas de nulle part, en fait. la raison pour laquelle on se pose la question de l'existence d'une vie intelligente dans l'univers. Déjà, le fait de se poser la question d'une vie intelligente et de mettre la question de l'intelligence en avant, par exemple, eh ben, ça nous vient de la science-fiction, ça nous vient de certaines manières dont la question de la vie dans l'univers a été pensée depuis l'Antiquité et puis au Moyen-Âge par des penseurs chrétiens, etc. Et en fait, il y a un héritage intellectuel qui est super important et dont on est les héritiers aujourd'hui, en fait. Ouais. Et si on ne prend pas en compte cet héritage-là, bah, ça nous bloque dans une certaine... Dans un couloir idéologique de ces questions-là, et ça nous crée des points aveugles, enfin des angles morts, qui nous empêchent de traiter la question autrement. Ouais. Et pour moi, c'était intéressant de remettre ça dans le contexte. Voilà, parce que...
et pour travailler ça, tu as fait comment? Tu as fait appel à des spécialistes? Parce que, en fait, la grosse difficulté de ça, c'est de se repositionner à la place d'une personne qui a vécu à un instant T et on n'a pas du tout la même culture. Enfin, quelqu'un, là, si on devait rencontrer quelqu'un du Moyen-Âge, on ne penserait pas du tout de la même manière. Comment tu as fait pour aborder ces questions-là?
Alors, il y a eu plusieurs manières. La première, c'est que j'ai pris des cours d'anthropologie, ce qui m'a quand même fait prendre pas mal de recul sur des préconceptions que j'avais. En fait, ce qui est marrant avec l'anthropologie, c'est que tu remets en cause toutes tes certitudes sur ta manière de voir le monde.
Complètement.
Donc, c'est un espèce de gros reset, et ça te donne vraiment... ça te donne une espèce de liberté, mais en même temps, tu as toujours un point de vue qui est situé sur le monde, et tu apprends à prendre en compte ce point de vue situé et pour prendre du recul sur tes propres conceptions et sur les conceptions des autres. Les autres étant d'autres groupes, d'autres ethnies, d'autres peuples à différentes époques, etc. Donc ça a été un garde-fou intéressant. Et le deuxième, c'est de lire des bouquins d'histoire des sciences, tout simplement. Et pas juste d'histoire des sciences, qu'est-ce qui s'est passé à tel instant T. Mais en fait, il y a un tournant dans l'histoire des sciences, qui est ce qu'on appelle le tournant social, qui a été initié dans les années 80-90, qui essaie de se libérer de la vision qu'on a des grands hommes de l'histoire quand on parle d'histoire des sciences, et de voir c'était quoi le contexte social, culturel de l'époque, et comment est-ce que ça a favorisé l'émergence de certaines idées. Et ça, je trouve ça super intéressant, et on n'en parle pas assez, notamment parce que la plupart des gens ne sont pas formés sur ces questions-là, et je ne le suis pas beaucoup plus que la plupart des gens, c'est juste que je suis conscient que ce truc-là existe. Et dans mes lectures, je suis tombé pas mal de fois sur cette idée-là. Donc, pour moi, ça a été ça. Donc, de l'histoire des sciences et de l'anthropologie, enfin des sciences sociales quoi, en général, et SHS.
Okay, parce que c'est toujours dur aussi de voir l'histoire aussi, parce qu'elle est toujours reformulée pas. Bon, est-ce que je fais mon pinailleur pour un monde meilleur car j'ai eu... Un moment dans le livre, quand tu parles du vitalisme, parce qu'au moment de décréter que la fameuse force vitale qui est censée séparer l'organique de l'inerte avant de passer au mode totalement mécanistique de la vie, où c'est purement des petits rouages moléculaires qui font. Et ça passe par la synthèse de l'urée, en fait, en lui donnant une bonne importance... en disant que c'était la première fois qu'on utilisait des éléments inertes pour faire des produits que seuls les organismes savent faire. Or, quand les historiens ont commencé à gratter, on a vu que finalement, cette synthèse, on s'en foutait un petit peu, et que c'était une reconstruction a posteriori des organiciens pour se dire « Regardez, on a pris la légitimité, on a enlevé le vitalisme grâce à la chimie organique, nous les chimistes ».
Exactement. Alors et c'est assez fascinant parce que ce débat entre vitalisme et mécanisme, donc le fait de considérer les êtres vivants comme des machines, c'est vraiment un débat idéologique qui dure jusqu'au début, moitié du XXe siècle à peu près, et qui, en fait, les historiens des sciences de la début de deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à assez relativement récemment, on était vraiment sur le vitalisme, c'est de la merde. Et c'est un triomphe idéologique du mécanisme. Mais en fait, en vrai, c'est beaucoup plus nuancé.
C'est toujours sur un temps long, en fait. C'est toujours, on a peu à peu des éléments qui viennent. Et l'histoire des sciences a un peu trop tendance à... Même les gens sur place qui ont envie de se dire de faire l'expérience qui tournera tout, Pasteur qui fait sa grande démonstration, Lavoisier qui fait la synthèse de l'eau en hyper grand, en invitant toute la cour, regardez, on va refaire une expérience qu'ils ont déjà refait 20 fois en Angleterre, mais on va la faire maintenant, comme ça on montre la science et ça sera dans l'histoire, etc. Parce que comme la synthèse de l'urée, il y a toujours les gens qui pourront dire « Oui, mais c'est pas totalement ça, puisque le cylianate que tu as utilisé, en fait, ça vient des cornes et des sabots de chevaux, donc en fait, c'est encore des éléments organiques, donc le vitalisme, il est peut-être parti dedans. » Mais c'est des petits coups, en fait, tout le long de l'histoire, qui est dur à résumer dans un chapitre, donc c'est pour ça que je suis purement pinailleur sur ce point de vue-là.
Mais tu as parfaitement raison.
Mais c'est clairement un temps long qu'on voit rarement sur place, et que c'est les manuels, et ensuite comment on en signe l'histoire des sciences, la plupart du temps en introduction de slide du cours, voilà, tant ça, et ça a l'air vachement simple l'histoire, en fait, sur une slide d'introduction, mais c'est beaucoup plus complexe que ça.
En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Moi, je pense qu'on va peut-être faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez des questions sur le livre? Parce que tout le monde ne l'a pas lu. Moi, j'ai pas tout lu parce que je lis très lentement.
Moi, je vais être très honnête. J'ai pas encore eu le temps de me poser pour le lire. C'est un bonbon qu'il faut préserver. Il faut qu'il y ait les bonnes. Vraiment, j'ai envie de le lire dans les bonnes conditions. En ce moment, j'arrive pas à lire quoi. Donc, je suis désolée. Je peux rien dire, mais je suis sûre qu'il est excellent.
Mais il n'y a pas de pression à lire mon bouquin. Enfin,
Oui, mais bon, là, je suis là ce soir pour en discuter avec vous. Et...
Bah, c'est comme la télé, on est bien. On est bon.
C'est exactement
on est
pareil.
Bon, c'est nickel.
Tu penses de tout lire. Moi, j'ai lu ça.
Voilà, c'est parfait. Et où le stagiaire qui a lu? Le stagiaire.
Le stagiaire, il arrive dans un mois, peut-être.
Ah, bah, il aura lu. Le stagiaire aura lu, vous inquiétez pas.
Cette partie interview va peut-être prendre sa fin tranquillement. On continuera à parler après, mais je crois que Sabine a des choses à nous dire, une petite chronique à nous faire.
Tout à fait.
On a un jingle.
Mais
il faudrait. Non, on n'a pas de jingle, non. Mais il faudrait qu'on nous fasse des jingles un jour. Hein.
Moi, je veux Mariah Carey qui chante Noël en jingle.
Ok, mais t'achètes les droits alors.
Oh. C'est terrible.
On peut le faire en bruit de bouche. Hein.
Ouais, je sais pas. Un jour en karaoké alors.
Ah ouais!
Le carnage.
Mais tout n'est pas obligé d'être beau sur cette chaîne.
Mais oui.
On peut faire des choses marrantes.
Faut sortir de sa zone de confort, merde.
Oui, voilà. Bon, on aura peut-être plus de viewers, mais c'est pas grave.
D'ailleurs, s'ils nous regardent, vous pouvez financer cette chaîne Louis Vuitton, il n'y a pas de problème.
Avec plaisir.
Allez-y.
Un petit sac Louis Vuitton.
Allez. Eh bien, Noël oblige. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce nulle part de l'inconscient collectif, comme le disait Marie-Louise von Franz, qui était psychiatre au 19e siècle. Et en fait, enfin, fin 19e, début 20e. Et en fait, l'idée, c'est que ce soit un petit peu interactif. Hein, donc, ma chronique donc, tournera autour des contes de fées. Vous l'aurez peut-être deviné. Et là, j'ai une question pour vous, que ce soit pour vous, le public, hein, et vous aussi. Là, conte de fées, quel est le premier conte de fées qui vous vient en tête?
Un petit chapeau en rouge, là, maintenant.
Blanche-Neige.
Peut-être à cause de...
Blanche-Neige.
Moi, c'est Cendrillon, parce que j'ai vu la première
photo.
Ah
ouais, mais toi, tu triches, toi. Vas-y.
Moi, je dis vraiment les contes de Perrault, donc chapeau en rouge et autres.
Ok, c'est normal. C'est pile le truc. À chaque fois que je pose cette question, c'est toujours ces mêmes résultats. C'est très drôle. Moi, Blanche-Neige, quand même. C'est vraiment plus ce petit chapeau rouge et Cendrillon en général qu'on dit. Donc, c'est assez rigolo. Et vous, dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui ont donné un petit peu leur...
Le petit chapeau rouge pour Taurus 120. Ils sont un peu...
Apparemment, effectivement, c'est un échantillon représentatif.
C'est marrant parce que moi, le Blanche-Neige, c'est en effet un conte, mais c'est pas le premier truc qui pop dans ma tête dans conte, parce que pour moi, c'est un Disney.
Bah ouais, mais c'est
oui,
c'est un conte.
Ça reste un conte, oui. Mais je veux dire, dans ma tête, je le classifie.
Et ça aussi, c'est rigolo. Enfin, ouais. Ça, je pourrais en parler des heures. C'est le fait que ce soit Disney qui pop à la place de... Bah oui, forcément. Donc bon.
Bah, je pense qu'on a beaucoup, on a été beaucoup à découvrir les contes via les Disney. Hein,
carrément.
Quand on est enfant.
Et puis après, quand on grandit, on découvre qu'en fait, Disney...
En fait, ils meurent tous à la fin. Ouais. Voilà.
Ils ont mis beaucoup de sucre. Ils ont bien lissé.
Plus que du sucre, alors là, c'est quoi.
Ah là là, ils nous ont broyé dans la guimauve.
Complètement. Et du coup, bah là, le conte de fées, donc un petit peu pour vous resituer à peu près, donc effectivement, petit chapeau rouge, Cendrillon, en gros, donc, ce sont des histoires, enfin, aujourd'hui c'est un genre littéraire, mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. Avant c'était une tradition orale plurimillénaire, et donc dans ces histoires vous avez du merveilleux, vous avez un héros ou une héroïne à qui il arrive plein de problèmes, il s'en sort ou pas. Bon, ça dépend. Et surtout, derrière, il y a une volonté de faire apprendre quelque chose à la personne qui va entendre l'histoire. Et donc, que ce soit éducatif ou plus moralisateur, mais en tout cas, l'idée, c'est que quand vous écoutez cette histoire, il y ait quelque chose derrière qui vous dit « Attention, ne parlez pas aux inconnus, comportez-vous bien, respectez votre maman, respectez les frères et sœurs, etc. » Et l'autre chose qui est aussi importante que pour la suite, c'est qu'à chaque fois, on est dans une sorte d'ailleurs un peu lointain, un peu imaginaire, où en gros, vous avez un temps, un lieu et un espace qui est complètement indéfini. Et pourquoi je vous en parle ? Déjà parce que c'est la période de Noël quand même, voilà. Et pourquoi aussi je vous en parle ? Du coup, je veux bien que tu reviennes sur l'une des premières... finalement, presque, peu importe, celle où il y avait notre cendrillon... Non, pas celle-là. Pas celle-ci, non.
Donner pour qu'on achète un autre écran.
Ouais, tiens. Ouais, voilà. Voilà. Celle-là, tout à fait. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, parce que j'ai notamment... je me suis intéressée aux travaux d'un docteur en sciences de gestion qui s'appelle Xavier Menot, donc spécialiste en sciences de la gestion. Donc pour le public qui ne connaît pas, en fait, les sciences de gestion, en fait, c'est une discipline qui appartient aux sciences humaines et sociales. En gros, ça regroupe comment on gère une institution, une entreprise, une association. En gros, comment c'est une science qui va analyser toutes les actions collectives. Et vraiment, comment une entreprise, ça fonctionne, comment une association, ça fonctionne, etc. Donc, il y a toujours une dimension sociale, psychologique, droit, économique, etc. Marketing également. Et donc, ce sont plusieurs stratégies qui regroupent, plusieurs disciplines qui regroupent tout ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, notamment dans ces travaux, c'est comment la publicité utilise les contes de fées. Et rien que là, pareil, si vous pensez à une pub qui utilise un conte de fées, est-ce que vous avez en tête... une pub célèbre là, qui parle de contes de fées, est-ce que vous avez un exemple là précis?
Je sais un qu'il y en a plein, mais faut trouver. Enfin,
il faut sûrement y avoir des pubs de parfums.
Ouais, les pubs de parfums, ouais. Moi, je vois bien aussi.
Machin, un truc comme ça. Ouais. Là, j'ai pas, mais il y a forcément, si on part dans l'onirique.
Je vois plein de pubs de parfums qui passent sur Cendrillon, etc. Mmh. Je vois bien des entreprises de bâtiments utiliser les trois petits cochons ou des choses comme ça.
Ah, mais c'est excellent! Je crois qu'il y en a eu.
Je crois qu'il y en a eu, c'est pour ça que ça me vient en tête. Ouais. Mais.
Là, ça me dirait.
Mais je dirais, ouais, c'est plus.
Mais
je
n'ai pas un truc précis.
Un truc précis. Ouais. Mais globalement, vous avez quand même identifié un type de produit.
Ouais.
Où ça se retrouve.
Ça fait appel à l'onirique, ouais. Je pense que les pubs de parfum, c'est un bon candidat.
De parfum, le luxe, enfin, c'est.
Ouais, le luxe aussi. Ouais.
Tout à fait.
Les chaussures.
Les chaussures, tout à fait. Oui. Bah oui, en plus avec, voilà, avec Cendrillon, quoi. C'est parfait. Et effectivement, on va retrouver dans certains cas, et ça c'est super intéressant. Donc du coup, tout ce que vous venez de dire, parce que il y a certains. Certains secteurs où on a pu se retrouver le conte de fées pour différentes raisons. Donc déjà, il faut imaginer que quand on veut faire une publicité, il faut toucher le public le plus large possible, ou une cible particulière. Et dans ces cas-là, il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, on est sollicité, nos yeux sont vraiment sollicités par des milliers de stimuli visuels. Eh bien, il faut savoir être différenciant, il faut savoir capter l'attention de ce public. Et ça, l'attention, c'est le nouveau Graal, hein, aujourd'hui en marketing, en publicité, etc. Mais en tout cas, le cerveau, nous, il a besoin de faire une sélection, quoi. Il peut
ça
pas tout...
Ça prend le temps de cerveau disponible.
Non, mais complètement. Et le cerveau, il doit gérer toutes les images et à un moment donné, il doit choisir. Donc, il va choisir des trucs qui sont hyper attractifs, qui font plaisir, qui le font marrer. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire ce choix. Et en fait, parmi les choses qui fonctionnent, vous avez les contes de fées. Donc, pour des raisons qui sont hyper simples, c'est que tout le monde les connaît. Tout le monde connaît le petit chaperon rouge. Enfin, franchement, trouver quelqu'un qui ne connaît pas le petit chaperon rouge. Bon, allez, une grande partie de la population, pour être le plus scientifique à la rigueur, mais globalement...
Le côté
c'est...
occidental, peut-être
Non, ils non, ont le... Sauf que le petit chaperon rouge, par exemple, en Chine, c'est pas un loup, c'est un ours. C'est même pas que des adaptations, c'est qu'à l'origine, c'est des traditions orales, les contes. Donc, on ne sait même pas d'où ça vient. Ouais. Tu vois, il y a... On a des... en gros, depuis qu'on se raconte des histoires, on connaît les contes, c'est juste qu'ils ont tellement été transformés par les cultures de chaque pays... Et c'est en plus, ça voyage énormément. En fait, les plus grands conteurs, ce sont les voyageurs marchands. Et c'est eux qui racontent leur histoire. Mais effectivement, il y a des transformations au fur et à mesure. Là-bas, c'est un ours. Là-bas, c'est un grizzly. Et ici, ce sera un loup. Donc, ça dépendra de qu'est-ce qui fait le plus flipper dans la culture. Mais en tout cas, ça bouge. Les contes bougent énormément via notamment les marchands. Et donc, il y a ça. Il y a ce côté universel de... Enfin, tout le monde connaît ces histoires-là. Et en plus, c'est hyper simple dans la structure narrative, en fait. C'est quelqu'un qui arrive des embrouilles, bon, il s'en sort ou pas, mais globalement c'est simple, quoi. Il n'y a pas 10 000 ramifications dans l'histoire. Ouais. Et ça, c'est pratique pour la pub. C'est hyper simple comme discours. Et du coup, hop là, je tourne ma petite page. Et
c'est la plus professionnelle de, tout, de nous tous, hein.
Clairement. Ah mais moi non, j'étais à fond.
Ah, moi je suis une touriste. Hein.
j'ai travaillé, regardez, c'est magnifique. Et en fait, vous avez différentes utilisations. Enfin, l'utilisation du conte de fées dans la publicité, ça va répondre à trois, on va dire, fonctions. Et je vais vous aider à trouver lesquelles. Donc, imaginons une marque qui a envie de vendre des chaussures. Vous proposez quoi? Comme compte.
Cendrillon, évidemment.
Voilà. Une marque qui souhaiterait. Enfin, une marque de coiffeur. Enfin, une entreprise de coiffeur.
Ouais, réponse. Oui, bah ouais.
Voilà. Une entreprise qui vend des réveils.
La Belle au Boulot.
Ah
Alice au Pays des Merveilles.
Ah oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Donc, et en fait, il y a ce côté pratique. C'est-à-dire que le compte, c'est hyper pratique quand tu as envie de dire, bah, tiens, je vends de la literie, bah, tiens, on va faire la Belle au Dormant, etc. Mmh. Donc, il y a une dimension pratique. Après, il y a une autre dimension. On va imaginer, par exemple, si vous voulez vendre des chaussures, eh ben, vous allez vendre... vous allez utiliser Cendrillon, bah, par exemple, pour vendre peut-être des pansements contre les ampoules. Vous allez prendre... la Belle au Bois Dormant, bah, il n'y a pas de pile et du coup, elle ne se réveille pas, le réveil, il est mort. Et bah, réponse, eh ben, peut-être on peut imaginer une pub autour du shampoing démêlant. Donc, là, l'idée, c'est le côté décalé, en fait. Mmh. Le côté décalé va être très utile, notamment d'un point de vue humoristique, pour marquer les esprits. Parce que comme on connaît l'histoire, on se dit « c'est marrant, ils ont varié le truc ». Donc, il y a ce côté ludique qui fonctionne super bien. Bah, notamment, tu as la pub McDo qui l'illustre pas mal.
Là, je l'ai.
Elle était juste avant, ouais. Enfin, moi, je vois, voilà.
Voilà. Elle est là, t'inquiète.
Ouais, je m'inquiète pas. Donc là, on retrouve ce côté ludique. En fait, le côté venez comme vous êtes, en gros, pas besoin d'être une princesse habillée en malin, tu peux venir en pouilleuse. Enfin, voilà, c'est McDo, il n'y a pas de souci. Tu peux venir après minuit, quoi. C'est, mais c'est complètement ça. Donc, McDo aussi, vous pouvez nous financer si vous voulez.
Non, non, ça, c'est pas dans notre charte éthique.
Ah, bah non, excusez-moi, pardon, désolé.
Désolé.
Autant pour moi.
Il faudra faire un petit chèque anonyme alors.
D'accord, ou à moi, tu vois. À moi, coucou. Je m'appelle Sabine.
Un énorme chèque, mais.
Voilà.
Il n'y a pas de problème. Et le troisième sens, donc là, enfin, la troisième utilisation, donc, c'est beaucoup plus profond. Donc là, l'idée, c'est de mettre quelque chose de plus métaphorique, de plus. Vraiment de plus profond, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a un message à faire passer. Mmh. Donc là, je sais, est-ce qu'il y avait notamment le petit... t'avais le petit chaperon rouge.
Faut que je le trouve.
C'est une blonde qui fait... comme ça.
J'ai un petit chaperon rouge.
Oh, même ça. Tu vois, la petite fille qui se balade. Ou ça, ouais, voilà. Enfin, peu importe. Voilà, pareil, là, donc, le conte, il a à la fois ici, par exemple, dans le côté un peu décalé... Mais c'est pas drôle, c'est vraiment pour dénoncer quelque chose, pour mettre vraiment une problématique qui implique une réflexion plus poussée de l'usage du conte. Donc on a vraiment ces trois manières d'utiliser le conte. Et ce que vous disiez plutôt par rapport au produit, la chaussure, le parfum, effectivement, c'est ça. Et je reviens du coup aux recherches qui ont été faites d'un point de vue marketing autour d'utilisation des contes de fées dans la publicité. On se rend compte qu'il y a beaucoup, en fait, beaucoup de pubs où on utilise des contes de fées qui sont liés au produit et plus spécifiquement au parfum. Mmh. C'est le produit par excellence qui va être utilisé pour vendre ouais, un produit, notamment dans le secteur du luxe. Un peu les chaussures aussi avec Cendrillon, parce qu'il y a une évidence folle. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, tiens, bon, bah, c'est spécifique au luxe, comme tu le disais. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est que le conte de fées, à l'origine, c'est quand même à la fois populaire et élitiste. Parce oui. qu'en gros, c'est universel, ça concerne toutes les couches de la population. Tout le monde avait accès au conte, tout le monde se raconte des histoires au coin du feu. Et ce côté populaire, bah, on peut dire, bah, tiens, c'est paradoxal du coup que les maisons de luxe utilisent un conte, une histoire. Bah, non, justement, parce que vous savez, dans le luxe, vous avez trois types de luxe. Vous avez le luxe inaccessible. Mmh. Donc là, en gros, il faut imaginer la haute couture. Voilà, c'est un luxe inaccessible. Vous avez ensuite un luxe qui est intermédiaire. Par exemple, les beaux sacs en cuir, voilà, quelques milliers d'euros. Et vous avez le troisième qui est le luxe accessible.
Genre Starbucks.
Et le luxe, l'unité d'éclairage.
Apple, si on peut dire que
c'est. Oui, Apple, ouais.
C'est pas oublié.
C'est ça, bah, le parfum, par exemple. Le parfum fait partie du luxe accessible.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'une grande partie de la population peut s'acheter sans problème tout ça, quoi. Enfin, Et encore, il faut relativiser. Mais globalement, c'est plus simple de s'acheter un rouge à lèvres Chanel à 35 € qu'un sac Birkin à 30 000 €. Voilà. Globalement. Hein. Après, vous me dites hein, si vous y arrivez, mais je me poserai la question. Hein. Et effectivement, donc, c'est le parfum qui va vraiment être le cœur parce que ça couvre en fait une cible très très large. Le compte, ça touche une cible très très large. Et en gros, en plus, ce sont des produits qui vont incarner aussi un luxe par rapport à ce côté un peu impalpable. Tu vois, le côté, c'est une fragrance, ça sent bon, et c'est pas quelque chose que tu peux attraper. C'est...
Typiquement, la pub de parfum ne fait que vendre du rêve, littéralement.
Voilà, complètement. C'est ça. Ouais. Et le conte de fées, ça marche
parce
super
que déjà,
bien.
Déjà, c'est un produit qu'on peut pas te présenter toi-même. C'est pas comme tu fais, regarder comme mon produit est beau, quel visuel, quelle qualité audio, etc.
Tant qu'il n'y a pas d'odorama dans les pubs. Et tant mieux d'ailleurs.
Non, alors là, laisse tomber. Voilà,
non. Effectivement, comme c'est quelque chose d'immatériel, tu as tout imaginaire à construire, ouais. Et donc c'est un terrain beau pour la pub, effectivement.
C'est ça. Est-ce que tu peux essayer d'arriver vers une autre...
J'ai Cendrillon, je crois.
Non, ce sera...
Je crois que j'ai celui-là.
Alors ça c'est rigolo parce que c'est Louboutin qui a créé une sorte de pub avec du dessin animé à l'intérieur comme Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc c'est très rigolo pour voir à quel point le créateur peut s'intégrer dans le rêve, dans l'accessibilité du rêve. Bon et là du coup là c'est côté très, c'est une image très forte qui peut vraiment montrer à quel point c'est, ça peut... en gros ça s'adresse à des adultes. Voilà, ça c'est. Mais après, je reviendrai en conclusion là-dessus. Mais en tout cas, l'idée c'était de montrer aussi que la pub qui va utiliser le conte de fées pour le parfum, c'est comme pour la robe de princesse. C'est-à-dire que quand tu mets une robe de princesse, eh ben, tu deviens une princesse. Il y a une sorte de transformation, il y a une sorte de mobilité sociale. Tu vois, enfin, tu deviens quelqu'un, enfin, c'est une sorte d'ascension. Et le parfum, en fait, c'est la même.
D'ailleurs, je fais un parallèle. Le conte de fées utilisé pour vendre du parfum féminin.
Oui.
Oui.
Oui,
pas
c'est
masculin.
Vrai.
Parce que du coup, le parfum vend le fait de transformer la femme en princesse, puisque c'est évident que nous voulons tout ça depuis toute petite. Et par contre, le parfum masculin, c'est pour te transformer en mâle alpha qui va attirer toutes ces princesses.
Complètement. C'est même plus lié à la mythologie, en fait. La mythologie gréco-romaine, le dieu. Effectivement, il y a ce côté viriliste qui est très mis en avant, alors que les femmes, il y a les deux. Il y a le côté déesse et le côté... transition à la fois donc petite fille vers une femme qui domine sa séduction, enfin qui est vraiment qui gère tout ça, et en plus elle devient quelqu'un d'autre. C'est vraiment il y a ce côté, faut imaginer le parfum comme étant la nouvelle robe de princesse, quoi. Donc ça en gros, donc les conclusions de ces recherches c'était que ça fonctionnait aussi parce que donc il y avait un sentiment d'élévation sociale, aussi un sentiment, enfin en gros une implication émotionnelle, parce qu'en fait tout ça, les contes de fées, il y a ce côté récréatif aussi, enfin et on se projette. Les mythes, les légendes, vous pouvez pas trop vous identifier au personnage, au héros, alors qu'un conte de fées vous identifiez direct, en fait. Et il y a ça qui
dit que pour le masculin, c'est plus les légendes nordiques.
Peut-être aujourd'hui, mais en tout cas, c'est très récent.
Ça dépend des tendances. Hein. Ouais. Ça dépend vraiment des tendances, mais c'est très probable. Hein. Tout comme on a des légendes nordiques pour les parfums féminins, il y a les deux. Enfin, Tristan et Iseut est très très utilisé pour la parfumerie, en fait. Enfin, l'imaginaire collectif de Tristan et Iseut. Et on peut s'identifier tout de suite, et c'est ça qui est intéressant. Donc avec ça, vous avez donc ces sciences des sciences humaines et sociales qui sont liées aux sciences de gestion, on va étudier justement tous ces éléments-là, et aussi avec un mélange finalement de sémiologie, de sémiotique, où on va analyser tout ça comme étant des signes. Vraiment, la sémiologie et la sémiotique, l'idée c'est vraiment de voir comment certains éléments, les images, le texte, etc., ce sont des signes qu'on retrouve et qui vont expliquer des attitudes, des comportements, et le conte de fées là-dessus est un signe universel et qui peut... qui permet vraiment d'amener pas mal de réflexions autour de ça. Et donc du coup, voilà, pour conclure, l'idée c'était de vous parler un peu de science autre, en fait. Enfin, en plus, je trouve que ça rejoint bien le livre de Sébastien, le côté, allez, on mélange un peu les différentes sciences, et de parler de sciences humaines et sociales. En plus, c'est Noël. Les contes de fées, c'est cool. Et voilà, donc c'est des recherches que je trouvais super intéressantes pour vous parler un peu de sciences en gestion, en marketing. Ben, ça mène des réflexions de société assez sympas, je trouve.
En tout cas, merci beaucoup, c'était très très bien.
Oui, moi j'ai envie d'ajouter encore un truc si c'est pas.
Je t'en prie, vas-y, vas-y.
Ouais, peut-être moins pour les trucs de parfum, mais aussi le fait d'utiliser du compte, peut-être justement pour les pansements par exemple. On va mettre en scène de manière un peu rigolote, alors évidemment ça va marquer parce que voilà. Mais aussi le rappeler un peu le côté nostalgique de l'histoire de notre enfance qui du coup va faire un attachement produit aussi.
Oui, tout à fait, il y a ce côté nostalgique. Ouais. Il y a ça, puis parfois il y a même l'accompagnement, les parents qui vont avec leurs enfants. Pour ça, Lego, ça fonctionne très bien par exemple, parce que tu vas acheter des Lego, papa et l'enfant, et les contes, c'est la même. En gros, tu partages, tu as raconté l'histoire, on a même tous regardé les Disney parce que Blanche-Neige, c'est 1937. Hein.
Ouais.
Et on les a.
Ça ne rajeunit pas.
Non, mais et Cendrillon, c'est 1950, tu vois. On a nos parents. Les ont plus ou moins vus, enfin moi dans mon cas, bon, parce que je suis vieille, mais les nouvelles générations, leurs parents ont vu les Disney quand ils étaient petits, et les enfants, ils les voient, donc il y a ce côté transmission de quelque chose aussi, effectivement.
Ouais, ouais. Merci beaucoup Sabine. Je crois que tu voulais, je crois que tu devais partir, non?
Oui.
Elle veut pas partir.
Non, mais tu peux rester comme tu veux, mais tu vas genre...
Une porte de sortie, tout à fait, il faut que je m'en aille vers 55, mais c'est vrai que si vous voulez faire une transition sans avoir de coupure, en effet, je peux décoller.
Non, mais on peut faire 5 petites minutes de pause, le temps de se dire au revoir, ne vous inquiétez pas, on revient. Hein. De toute façon, ça fait une heure qu'on est là, on a le droit à une pause.
Allez,
tout à fait, une petite pause d'hydratation, faites chauffer votre thé. J'en profite pour dire que j'ai vu pas mal de gens du barrage.
Oui, on te demande à quand ton livre.
Non, Galdros a très bien répondu, comme quoi je ne finis jamais rien, donc le livre c'est mort. Je suis extrêmement vexée, Galdros.
C'est pas grave, je fais comme Sébastien, écris 5 livres, comme ça il y en a un qui sort.
Non, mais en tout cas, bravo Sébastien, de toute façon pour ton livre, même si pour l'instant je l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Je suis sûre qu'il va être très très bien. Et voilà, en effet, si vous voulez, on peut faire une petite pause le temps que je m'éclipse.
Oui, on va faire une...
les poutous au chat. Passez une très très bonne soirée et
merci d'être venu. Voilà. C'était trop bien.
Bah merci, j'espère que à l'occasion je ferai un live en entier.
Avec plaisir. Merci. On reprend tranquillement les lives présentiels. Hein. On fait gaffe parce que on n'est jamais totalement à l'abri.
Ouais.
Mais on reprend les lives présentiels, donc voilà, on aura l'occasion de se revoir. De
Avec
toute
plaisir.
Façon,
je vous prépare une petite chronique dégueu. J'essaierai de trouver ça.
Exactement. Ça. On se retrouve dans 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, on revient.
Salut Castor.
Les poutous, salut.
Mais jamais, dis donc. Le collectif conscient, c'est trop bien.